VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. À ce micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 12 avril 2023, pour commencer le sommaire. Le Ghana annonce l'envoi de 1000 soldats après une attaque à Boku, près de la frontière avec le Burkina Faso. Des combats impliquant les rebelles du M23 ont eu lieu ce mercredi matin à Kibumba, au nord de Goma, en RDC. 10 migrants africains cherchant à gagner l'Europe meurent après le naufrage de leur bateau au large de la Tunisie. Joe Biden en Irlande du Nord pour encourager le dialogue entre partisans d'une réunification avec l'Irlande et les pro-britanniques.
M'assurer que les accords irlandais et l'accord cadre de Windsor restent en place. Maintenir la paix, c'est le plus important.
À suivre aussi les nouvelles économiques, le Cameroun a repris les pourparlers avec les États-Unis pour réintégrer le programme de préférence commerciale AGOA et les sports avec la qualification des Los Angeles Lakers pour les playoffs. Pour commencer, le journal. Le Ghana a annoncé l'envoi de 1000 soldats à Boku dans le nord-est après qu'un officier de l'immigration a été tué et deux autres blessés. C'était dans une attaque près de la frontière avec le Burkina Faso. Les précisions de John Lyndon.
Le service d'immigration ghanéen n'a pas précisé les motivations de l'attaque survenue la semaine dernière, mais a souligné que les trois victimes n'étaient pas en service quand le tireur a ouvert le feu sur leur véhicule à l'extérieur du commissariat de police de Boku. Au vu de l'intensification des menaces autour de la frontière, nous avons récemment envoyé 1000 hommes à Boku où nous continuons à surveiller la situation pour adapter notre stratégie si nécessaire, a indiqué mardi soir un porte-parole du gouvernement ghanéen. Le gouvernement tient ainsi à s'assurer que la violence des extrémistes de type djihadiste ne vienne pas se mêler au conflit de chefferie en cours à Boku, a-t-il souligné, sans préciser si l'attaque de la semaine dernière avait une ramification djihadiste. Jusqu'à présent, le Ghana a été épargné par les violences imputées aux djihadistes, à l'inverse de son voisin le Burkina Faso, où les djihadistes contrôlent près de 40% du territoire.
Les combattants du groupe EIGS, État islamique au Grand Sahara, ont pris la localité malienne de Tidermen dans la nuit de lundi à mardi, isolant la ville de Menaka dans une région du nord-est passée presque entièrement sous le contrôle de l'EIGS, ont indiqué ce mercredi des élus et des témoins. Ce jour, ils distribuent des courants aux populations, ils circulent en ville avec des armes, a rapporté un élu local. Les djihadistes ont demandé aux civils de circuler librement et de s'apprêter à payer le zakat, une taxe de fait prélevée au nom de l'islam, a dit un autre élu. Les régions de Menaka et Gao, plus à l'ouest, sont le théâtre depuis début 2022 d'une vaste offensive de l'EIGS. Elle donne lieu à d'intenses batailles avec d'autres groupes rivaux. Le mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine nous met des bâtons dans les roues, a affirmé ce mercredi le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa, alors que le pays doit accueillir en août un sommet des BRICS en présence du président russe. Tous les chefs d'État devraient assister au sommet, mais maintenant nous avons des bâtons dans les roues, a déclaré Vincent Mangwenya, le porte-parole de M. Ramaphosa lors d'une conférence de presse. La CPI a émis en mars un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour le crime de guerre de déportation d'enfants ukrainiens dans le cadre de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine. L'Afrique du Sud étant membre de la CPI, elle est théoriquement censée arrêter le président russe à son arrivée dans le pays. Dans l'est de la RDC, des combats entre les rebelles du M23 et une milice locale ont eu lieu ce matin au nord de Goma. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
Des hommes armés appelés localement Wazalendo et se présentant comme des patriotes ont attaqué en début de matinée une position du M23 à Kibumba, à environ 20 km de Goma, a expliqué une source militaire sous couvert d'anonymat. Les Wazalendo ont été repoussés selon cette source, puis ont été arrêtés par l'armée. Les affrontements ont duré 2 heures avant de se calmer, selon Fataki Sebatutsi, président de la société civile de Kibumba. Pour sa part, Bertrand Bissimwa, président du M23, a accusé sur Twitter le gouvernement de Kinshasa d'avoir attaqué les forces rebelles en violation des résolutions de la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est à Kibumba qu'a eu lieu le 23 décembre la première annonce de retrait des rebelles sous la supervision de la force régionale déployée par l'EAC. Depuis, le M23 s'est retiré de plusieurs autres de ses positions officiellement remises à la force est-africaine. Mais ces retraits ont été qualifiés de leurre ou de diversion par l'armée congolaise.
La Côte d'Ivoire va aménager 2 sites de transit pour accueillir les quelques 18 000 réfugiés du Burkina Faso, a annoncé ce mercredi le Conseil national de sécurité présidé par le président Alassane Ouattara. Selon le communiqué du CNS, les 2 sites de transit sont situés dans les départements de Ouangoloudougou dans le nord et Bouna dans le nord-est. Le nombre de réfugiés a bondi en un peu plus d'un an. En février 2022, le HCR en dénombrait environ 7 000. Les réfugiés fuient les attaques djihadistes meurtrières qui touchent le Burkina Faso depuis 2015 et sont parfois perpétrées à quelques kilomètres seulement du nord de la Côte d'Ivoire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
10 migrants sont morts au large de la Tunisie dans le dernier drame de l'immigration clandestine vers l'Europe. Selon les Nations Unies, le premier trimestre de l'année en cours a été le plus meurtrier depuis 2017. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
10 migrants tentant de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique subsaharienne se sont noyés au large de la Tunisie. 72 migrants ont été secourus et 10 corps récupérés après le naufrage à mardi au large de Sfax, a déclaré Oussem Djebalbli, porte-parole des gardes-côtes tunisiens, ajoutant que les morts étaient tous originaires d'Afrique subsaharienne. L'Organisation internationale pour les migrations a estimé que les 441 décès sont en deçà de la réalité. L'OIM parle de plus de 20 000 morts en Méditerranée depuis 2014. D'après elle, pendant le week-end de Pâques, 3 000 migrants ont atteint l'Italie, ce qui porte le nombre total d'arrivées depuis le début de l'année à plus de 31 000. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a décrété un état d'urgence de 6 mois sur l'immigration, moyennant 5 millions d'euros supplémentaires pour faire face aux flux migratoires. D'après l'OIM, les migrants passant par la Méditerranée sont le plus souvent originaires de Côte d'Ivoire, de Guinée et du Pakistan.
Le président américain Joe Biden est arrivé ce mercredi à Dublin pour une visite qui va l'amener jusqu'à vendredi sur les traces de ses ancêtres en Irlande. Il a appelé les forces politiques locales à surmonter les divisions qui persistent 25 ans après la signature des accords de paix pour mettre fin à la paralysie des institutions de la province britannique. Michel Joseph.
Avant de rejoindre Dublin pour une visite symbolique sur la trace de ses ancêtres, Joe Biden a fait une escale à Belfast pour célébrer les accords de paix signés le 10 avril 1998 entre unionistes fidèles à Londres, majoritairement protestants, et républicains majoritairement catholiques, partisans d'un rattachement à la République d'Irlande. Mais la commémoration bute sur une réalité plus difficile. Les institutions locales créées il y a 25 ans sont bloquées après le Brexit. Lors d'un discours à l'université de Belfast, Joe Biden a rappelé qu'il y a 3 décennies, la ville était parcourue de barbelés, secouée par les explosions et les affrontements qui ont fait plus de 3500 morts. La leçon des accords du Vendredi Saint, c'est lorsque les choses semblent les plus fragiles qu'il y a le plus besoin d'espoir et d'efforts. J'espère que l'Assemblée et le gouvernement locaux seront bientôt restaurés, a-t-il ajouté. Joe Biden a auparavant rencontré les leaders des 5 principaux partis politiques.
Le chef de la diplomatie syrienne, Faisal Megdad, est arrivé inopinément en Arabie Saoudite ce mercredi. La première visite du genre depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, a annoncé l'agence officielle syrienne Sana. La visite de M. Megdad intervient 2 jours avant une réunion de 9 pays arabes en Arabie Saoudite qui doit débattre d'un retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe dont elle est exclue depuis 2012. Le Royaume saoudien avait rompu ses relations en 2012 avec la Syrie où il a soutenu venue des rebelles, mais depuis le séisme du 6 février qui a dévasté la Turquie et des régions de la Syrie voisine, Riyad a envoyé de l'aide aux populations sinistrées à la fois dans les zones sous contrôle gouvernemental et dans les zones rebelles. Ici aux États-Unis, des milliers de personnes fuyaient ce mercredi des fumées toxiques nécessitant l'évacuation de leur domicile après le déclenchement d'un incendie dans une usine abandonnée de recyclage de plastique à Richmond dans l'État de l'Indiana. C'était une usine qui collectait du plastique et d'autres matériaux pour le recyclage ou la revente, a expliqué lors d'une conférence de presse Dave Snow, le maire de Richmond. Une zone d'évacuation de 800 km autour du site a été décrétée, forçant quelques 2000 personnes à quitter leur habitation, selon les autorités et les médias américains. Le responsable des pompiers de l'État de l'Indiana, Steve Jones, a indiqué que le brasier continuerait à brûler plusieurs jours, même s'il a déjà été contenu. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Claire Morin-Gibourg.
Le Cameroun a repris les pourparlers avec les États-Unis pour réintégrer l'AGOA, un régime préférentiel accordé par Washington aux pays d'Afrique subsaharienne. L'annonce a été faite par Alamine Ousmane May, le ministre de l'économie en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. L'augmentation des recettes d'exportation du pays est nécessaire pour éviter une éventuelle crise de la dette, selon le ministre. Les autorités gabonaises et la société pétrolière Perenco ont signé un protocole d'accord pour la construction d'une centrale électrique au gaz à Mayumba, sur la côte sud, afin d'alimenter les provinces méridionales de la Nyanga et de la Ngunye en électricité. Perenco va investir 24 milliards de francs CFA dans la phase initiale du projet qui devrait permettre d'électrifier 80 000 ménages et de créer quelques 450 emplois. La hausse des taux d'intérêt dans le monde augmente la charge de la dette des pays pauvres, déjà confrontés à des niveaux sans précédent d'endettement, alerte l'ONU. Ces hausses, enclenchées depuis plusieurs mois, notamment aux États-Unis et en Europe pour freiner l'inflation, pourraient coûter aux pays en développement 800 milliards de dollars d'ici à 2025.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Mohamedou, bonsoir à tous.
Les Lakers sont en play-off ici en NBA.
Oui, LeBron James et ses équipiers ont dû batailler jusqu'en prolongation lors de leur match de barrage face à Minnesota, enlevé 108 à 102. Michel Joseph raconte.
King James a tenu son rang avec un solide double-double, 30 points et 10 rebonds, qualifiant ainsi les siens pour les playoffs au bout d'un match difficile face aux Wolves, une rencontre de type playoff selon LeBron James.
C'était vraiment un match de playoff. L'atmosphère de playoff, l'intensité de playoff. Les arbitres nous ont permis de jouer. On se serait cru en playoff. C'est bien de se mettre dans la peau d'un match de playoff. Mais c'est évidemment un match différent qui nous attend ce week-end avec Memphis.
Bien évidemment, à partir de dimanche, les Lakers devront élever leur niveau pour espérer franchir l'obstacle des Grizzlies qui ont terminé deuxième de la conférence Ouest. Minnesota aura de son côté une dernière chance de rejoindre les playoffs vendredi face à la Nouvelle-Orléans ou à Oklahoma qui s'affronteront ce soir. À l'Est, c'est Atlanta qui a composté son billet pour la phase finale, déjouant les pronostics face au Miami Heat, battu 116 à 105. Comme les Wolves, Miami aura une ultime séance de rattrapage vendredi face au vainqueur du match entre les Toronto Raptors et les Chicago Bulls. Les noms des quatre formations repêchées seront alors connus. Elles rejoindront les 12 meilleures équipes de la saison régulière et les grandes manœuvres pourront débuter ce samedi 15 avril.
En football, suite des matchs allés des quarts de finale de la Ligue des Champions, ce soir c'est en Europe.
Face à l'AC Milan ce soir, Naples devra se passer de Victor Osimhen, blessé aux adducteurs. L'attaquant nigérian revenu blessé du dernier rassemblement de sa sélection fin mars a déjà manqué les deux derniers matchs de Naples, dont la défaite contre l'AC Milan 4 à 0 en championnat le 2 avril. Toujours ce soir, un an après leur quart de finale épique, le Real Madrid et Chelsea de Frank Lampard se retrouvent au même stade de la compétition au Santiago Bernabeu. Hier dominé dans le jeu, mais ultra réaliste, l'Inter Milan du portier camerounais André Onana a fait un grand pas vers le dernier carré en l'emportant à Lisbonne sur la pelouse de Benfica 2-0 en quart de finale aller. Dans l'autre match, Manchester City a surclassé sur sa pelouse le Bayern Munich 3-0. Sadio Mané est entré en cours de jeu mais n'a pas pu empêcher la défaite des siens.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place au dossier du jour. Au Mali, la situation sécuritaire se détériore progressivement à Ménaka. En dépit des efforts entrepris par les forces de sécurité maliennes, l'insécurité et la rareté des moyens de subsistance plongent de nombreux habitants dans une situation économique très difficile. Modibo Dembélé a joint à Ménaka Moussa Ag Ezagé, un résident qui témoigne.
Je suis au second cycle de la commune de la gendarmerie. Ménaka 1, second cycle. La situation sécuritaire à Ménaka est vraiment très faible. Surtout, c'est pas par rapport aux attaques de l'armée, surtout à la population civile à Ménaka ville.
Qu'est-ce qui se passe-t-il?
Chaque jour, on ne fait que ce qui est sur le mur pour les débarrasser de cette maison. Chaque nuit, et sur les routes. Même aujourd'hui, il y a un véhicule qui a été en terre. Et ce véhicule a été braqué par des bandits. Donc, ces bandits ont dépouillé tous les jeunes de cette prison. Ensuite, il y a un jeune dont j'ignore son nom. On l'a demandé, donc j'ai dit qu'il n'a rien, il vient de quitter l'hôpital. On l'a frappé, lui aussi, étant très énervé. Il a terrassé un de ses bandits. Il a piqué avec les couteaux sur son ventre. C'est en ce moment que les autres bandits ont tiré sur lui.
Et moi. Au niveau de Ménaka là-bas, qui sont ces bandits?
Non, les gens disent ça va. Les bandits des mouvements soi-disant signataires des accords, ce qu'on appelle les Daoussahak, sont les mêmes bandits qui tuent la population, qui braquent les gens. C'est surtout les Daoussahak et les Imaradis.
Et qu'est-ce que l'armée fait face à ces menaces de sécurité?
L'armée, il est en train de faire du sommier, il est en train de les cacher vaste. Si par exemple un cas se passe à 2h du matin à Tolok, l'armée n'est pas au courant. Ils évitent les patrouilles des militaires. L'armée fait ce qu'il est en train de faire, ce qu'il peut faire. Mais maintenant, si par exemple les 5 véhicules des patrouilles vont à Tolok, les bandits vont aller au premier cachet technique pour faire des gaffes et disparaître dans la nature. Un manque d'effectifs. Normalement, si c'est 10 véhicules, les autres laissent, ils vont diviser les 5, c'est 10 véhicules en 2. L'autre va à Tolok, l'autre va. En ce moment, il faut que toute la population ait les numéros de l'armée. En ce moment, si quelque chose se passe, on appelle.
Est-ce que la population a de quoi à se nourrir avec cette insécurité?
Non, absolument rien. Il n'y a plus de temps. La population de Ménaka souffre. Pas du tout. Il n'y a pas de denrées alimentaires.
Et comment elles se nourrissent alors?
Voilà, ceux qui n'ont rien, ils vont manger. Ceux qui ont quelque chose, ils vont garder ça pour eux-mêmes. Voilà, ils se nourrissent. Par exemple, quand ils ont des animaux, là, ils vendent un animal pour payer quelque chose pour eux.
C'était Moussa Ag Ezagé, un résident de Ménaka, joint par Modibo Dembélé.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Le mouvement international Sankofa, qui encourage les Noirs à se réapproprier leur passé pour un avenir meilleur, vient de tenir sa conférence 2023 à Washington, D.C. Au centre des discussions figurait la promotion des relations entre l'Afrique et sa diaspora. Reportage de Nani Talani.
Les conférenciers venus de divers pays et réunis au centre d'art d'Anacostia dans le sud-est de Washington D.C. ont d'abord rappelé le sens de Sankofa. Ce mot tui de la tribu Akan du Ghana se traduit littéralement par retourner, revenez et récupérez-le ou prenez-le. Il indique que ce n'est pas mal de revenir en arrière pour ce qu'on a oublié ou laissé derrière soi. Alpha Kwabo est journaliste et animateur de radio et de télévision basé au Royaume-Uni.
Peu importe si vous êtes né sur le continent africain, aux États-Unis, en Europe ou dans les Caraïbes, parce que nous sommes la nouvelle version de nos ancêtres, il est maintenant temps de faire les choses correctement. Make
things right. Revisiter le passé est aussi un moyen d'encourager les Noirs à utiliser leurs connaissances pour un meilleur futur pour le continent africain. Nous écoutons encore Alpha Kwabo.
On va commencer à ramener l'esprit de Patrice Lumumba. On va commencer à ramener l'esprit de Kwame Nkrumah, l'esprit de la reine Zinga Kimpapita, tous nos grands des guerriers et des soldats qui ont donné leur vie pour protéger notre peuple, pour défendre notre peuple, et le moment est venu.
Les panélistes se sont concentrés sur la terre africaine qui regorge de ressources naturelles incomparables. Pour Angezomo, artiste TikTok, cette initiative contribue à briser les préjugés. Certains objets qui ont négativement marqué le passé des Noirs, comme les chaînes de l'esclavage, ont été exposés. Certains membres ont reçu des diplômes d'honneur pour leurs actions en faveur du panafricanisme, dont Mélanie Diouf, ancienne enseignante venue de l'État de New Jersey et membre des Black Panthers.
L'Afrique exporte principalement des minéraux naturels, mais exporte également des idées. Je travaille sans relâche pour essayer de réunir à nouveau le nouveau parti des Black Panthers, unir toute la diaspora noire, y compris la diaspora en Afrique.
La conférence a également fait la promotion des livres des leaders africains, la musique, la danse et la poésie africaine. Nanit Talani, Washington DC, pour VOA Afrique.
Le président Joe Biden s'est rendu hier mardi à Belfast, en Irlande du Nord, 25 ans après l'accord de paix qui a mis fin entre les unionistes pro-britanniques et les nationalistes qui voulaient être rattachés à l'Irlande. Depuis plus d'un an, le parti unioniste refuse de participer aux institutions nord-irlandaises en raison du statut particulier hérité du Brexit. La correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, Anita Powell, fait le point. Le récit est de Nathalie Barge.
À Belfast, le président Joe Biden a souligné l'importance des accords de paix signés le 10 avril 1998 entre unionistes fidèles à Londres, majoritairement protestants, et républicains majoritairement catholiques, partisans d'un rattachement à la République d'Irlande. Mais les institutions locales créées il y a 25 ans sont bloquées en raison des conséquences du Brexit. Depuis plus d'un an, le parti unioniste refuse de participer aux institutions en raison du statut particulier hérité du Brexit. Malgré la conclusion récente d'un accord entre la Commission européenne et Londres sur la frontière physique avec l'Irlande du Nord, la presse a demandé à M. Biden quelle est sa priorité absolue lors de ce voyage.
M'assurer que les accords irlandais et l'accord cadre de Windsor restent en place. Maintenir la paix, c'est le plus important.
La chercheuse Donatienne Rhee du Centre d'études stratégiques et internationales assure qu'il y a une volonté bipartite aux États-Unis de voir l'Irlande réussir et qu'il est possible d'encourager la stabilité de diverses manières.
Il peut y avoir des investissements dans la région, des envoyés spéciaux qui restent investis et je pense qu'il faut faire des efforts pour renforcer la confiance. Après l'accord du Vendredi Saint, nous avons tous supposé que la paix était gagnée. C'était vraiment le moment de passer à la vitesse supérieure.
Pour le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, le 25e anniversaire de l'accord du Vendredi Saint s'annonce difficile.
Nous voulons voir les institutions de l'accord du Vendredi Saint restaurées afin qu'elles puissent donner de l'espoir à la nouvelle génération. Et nous aimerions voir les habitants d'Irlande du Nord bénéficier des riches opportunités économiques qui s'offrent à eux.
Pour Joe Biden, cette visite est aussi une histoire personnelle, comme la plupart des familles américaines. Les Biden venaient d'un autre continent. La petite ville irlandaise de Ballina a été le début de leur aventure. Le conseiller indépendant de Ballina, Marc Dufy, a déclaré que sa ville célèbre cette année 300 ans d'existence. Cette localité est jumelée avec Scranton, aux États-Unis, la ville de M. Biden.
Des Irlandais sont partis d'ici pendant l'oppression et la famine, sont allés à Scranton et ont travaillé dans les mines de charbon et sur les chemins de fer, des emplois vraiment difficiles, mais avec fierté et enthousiasme pour une vie meilleure. Ils ont pu fournir cela à leur peuple. La boucle est maintenant bouclée avec un fils de Ballina devenu président des États-Unis.
Vendredi, Joe Biden s'exprimera devant les habitants de cette modeste ville irlandaise pour un discours qui sera entendu dans les capitales du monde entier.
This is the voice of America. Washington, D.C.
En Afrique du Sud, comme partout ailleurs, les musulmans observent le ramadan par la prière et le jeûne. Certains voient le mois sacré comme une occasion de tendre la main aux personnes dans le besoin au sein de leur communauté. Zahir Kassim a échangé avec des habitants de Johannesburg. Voici son reportage raconté par Thierry Kaoré.
À Fort Burns, un quartier majoritairement musulman de Johannesburg, les rues sont calmes pendant la journée car le jeûne du mois sacré du Ramadan est en cours. Mais l'imam Chanel Kassim, directeur d'une école pour enfants défavorisés au Cap, travaille dur. Il va de magasin en magasin à la recherche de dons. Chanel Kassim assure que c'est l'esprit du Ramadan ou une façon de construire l'iman, une démonstration de foi et de bonnes actions dans l'islam.
Le ramadan est une bénédiction pour nous, vous savez. Il ne s'agit pas de nous affamer, de rester à l'écart de la nourriture et des boissons. Il s'agit de construire l'iman. Alors, Allah arrête tout et nous rappelle. Écoutez, ici, c'est le mois où vous devez essayer de vous élever spirituellement.
Des organisations locales à but non lucratif, telles que Islamic Relief, collectent également des dons de nourriture pour des personnes dans le besoin. L'organisation fournit des aliments à plus de 1000 familles à travers le pays. Mais ses membres disent que les problèmes économiques limitent leur travail. Adila Sirkoft, chargée de la collecte de fonds pour Islamic Relief Community.
Les produits d'épicerie qui coûtaient 300 randes, environ 16 dollars, le dernier ramadan sont maintenant presque le double, 600 à 700 randes, soit 32 à 38 dollars. Et cela étant dit, le montant et le coût des paniers, vous savez, l'aide alimentaire que nous distribuons, tout a également augmenté en raison de l'économie. Donc l'économie a fait des ravages. Je pense que le besoin augmente chaque jour et rapidement.
Mais la hausse des prix n'a pas arrêté les festivités. Shalim Ardilad est une institution à Fort Bourg spécialisée dans les confiseries sucrées. Le magasin s'active à l'approche de l'iftar, le coucher du soleil, les musulmans souhaitant terminer leur jeûne par une friandise. Moussa Ayami est cuisinier depuis 8 ans. Il jeûne actuellement, mais parvient à passer des commandes sans ressentir la tentation de prendre une bouchée.
Ce n'est pas si difficile, parce que vous voyez, quand vous jeûnez, Dieu vous donne plus de substance, encore de la puissance, pour être fort, pour ne pas se fatiguer. Vous pouvez faire ce que vous voulez sans problème.
Le ramadan est une période d'unité, de compassion et de solidarité. Les dons à la communauté rendent ce mois sacré encore plus significatif pour les musulmans.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. L'ex-rébellion Touareg estime qu'il n'y a aucun moyen de construire un avenir commun avec Bamako. La veille, elle a dénoncé le survol de la ville du Nord par des avions de l'armée. Une montée de tension qui a poussé le groupe de médiateurs à faire des propositions concrètes visant à relancer l'accord pour la paix. L'accord d'Alger est-il menacé et faut-il craindre une reprise des hostilités? Quelle solution pour une paix définitive dans le nord du Mali? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
C C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. À ce micro, Mohamed Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Plus d'informations 24 heures sur 24, c'est sur notre site internet www.voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube ainsi que Twitter. Merci de rester à l'écoute de nos programmes. À très bientôt sur ces mêmes antennes. Au revoir.